Bien, bonjour à tous et à chacun. Nous sommes réunis ici dans le salon Albert Mola où nous recevons Ève de Castro pour son nouveau roman « Le roi des ombres » publié chez Robert Laffont. Je salue également tous nos auditeurs qui nous écoutent via le site internet mola.com. Ève de Castro, bonsoir.
Bonsoir.
Vous vous étiez déjà intéressée au grand siècle avec un livre précédent, « Les bâtards du soleil ». Où vous nous entreteniez des enfants adultérins de Louis XIV. Aujourd'hui, ce nouveau et magnifique roman historique se déroule entre 1665 et 1674. La reine-mère se meurt, et 1674, c'est l'exécution du prince de Rohan, dit le chevalier de Rohan. Alors cette intrigue, car il y a une intrigue dans ce livre, on ne vous la dévoilera pas.
Donc, oh non, ce serait pas drôle.
Elle se déroule principalement à Versailles, à Paris et en Normandie. Et il y a à un moment donné aussi les campagnes de conquête des pays bas espagnols. Les ombres sont des gens de peu, les humbles qui côtoient les grands. Autour de la personne centrale, le roi. Comme l'écrit un de vos personnages, il y a ceux qui se rendent irremplaçables, qui gagnent une place près du soleil, les autres restent des ombres, et le sort des ombres est de se fondre dans la nuit. C'est un constat terrible. Rappelons que Versailles est un vaste chantier qui a débuté en 1661. Vous nous transportez à l'époque de la création des fontaines et du percement du Grand Canal. La mise sur pied d'un réseau hydraulique sous la direction de Denis Joly et de François Francine, tout ceci sous l'œil de Louis XIV, dont, vous l'écrivez, l'orgueil est vertigineux. Louis XIV atteint de la folie des grandeurs qui lui tient lieu de raison. Il veut imiter Dieu, donnant forme et vie à l'univers, plier la nature et lui imposer sa propre loi. Et j'ajouterais faire plier les hommes. L'installation du réseau d'adduction et le percement du Grand Canal, c'est 120 jours de travail, 68 000 mètres cubes de terre transportés à dos d'homme. C'est incroyable. Les jardins sont un immense bourbier, ce qu'on connaît aujourd'hui, hein, pour ceux qui connaissent Versailles, où les hommes tombent comme des mouches. Ils sont plusieurs milliers sur ce chantier. Ce livre est une tranche de vie aussi de deux héros. Un jeune manœuvre, débrouillard, malin, en diable, qui devient fontainier et qui rêve de faire fortune, et une jeune perruquière, qui, elle, rêve de devenir doyen de la faculté de médecine. Comme je l'ai dit, nous n'allons pas dévoiler l'intrigue, donc je vous propose de nous intéresser à l'organisation et au lieu. Et on va peut-être commencer par le chantier. Le travail débute à 5 heures le matin, au moment où l'horloge sonne.
Ce qu'il faut imaginer, enfin, je pense que vous connaissez tous Versailles, mais le Versailles... On a beaucoup de mal à imaginer aujourd'hui, quand on va à Versailles, ce qu'était le Versailles que je raconte. Parce que les travaux qui ont effectivement commencé en 1661 prennent vraiment, entrent dans une première phase de réelle construction à partir de la mort de la reine-mère, qui avait demandé à Louis XIV, sur son lit de mort, de renoncer à la guerre, aux bâtiments et aux femmes. Après avoir juré, il a fait serment, et le lendemain, il a intronisé maîtresse officielle Louise de Lavallière. Il a dit à Louvois qu'il fallait mettre l'armée sur le pied de guerre pour envahir les Pays-Bas espagnols, et il a lancé la première tranche de grands travaux de Versailles qui ont commencé par les jardins. Et ça, on ne s'en rend pas bien compte. Parce que le Versailles de l'époque, c'est ce qu'on voit, c'est le petit Versailles de Louis XIII, donc ce qui entoure la cour de marbre, avec les premières ailes en retour. Et à l'époque, il y avait juste 4 pavillons. 2 au bout des ailes, et puis 2 entourant l'arc de cercle de l'avant-cour. C'est tout. Et de l'autre côté, on avait simplement une terrasse assez simple, assez courte d'ailleurs, avec des bassins, très simples aussi, quelques bosquets qui avaient été faits par le nôtre. Et au-delà, il y avait un dénivelé de 33 mètres, ce qui est considérable, hein, entre la plateforme sur laquelle, c'est une butte, hein, Versailles, sur laquelle était édifié le château, et ce qu'on appelait alors le jardin bas. Mais en fait, ce n'était pas du tout un jardin, c'était une immense prairie marécageuse. Quand je dis marécageuse, l'eau affleurait par endroits à une dizaine de centimètres et au plus profond, entre 30 et 60 centimètres. Mais à certains endroits, on s'enfonçait carrément jusqu'aux genoux. Et cette prairie marécageuse servait de pâturage pour les paysans de Versailles qui, par privilège tout à fait rémunéré, faisaient paître leurs moutons et leurs vaches. Et ce pâturage marécageux engraissait des moustiques qui donnaient une fièvre des marais, l'équivalent de ce que nous on appellerait le paludisme, hein, qu'on ne savait absolument pas soigner, puisqu'on ne découvre la quinine réellement qu'en 1683. Donc dans ces années-là, les gens mouraient comme des mouches. Mais au moment où commence l'histoire, il n'y avait que des bêtes, donc ça n'était pas très gênant. Et puis, Louis XIV commande à Le Nôtre des jardins sur le modèle de vos vicomtes, en infiniment mieux, évidemment, puisque c'est pour le compte du roi. Pour ce faire, il faut assécher ce marécage. Évidemment, on n'a absolument pas les instruments d'aujourd'hui. Donc l'assèchement s'effectuait en creusant des rigoles, qu'on maçonnait sur les côtés, et on transportait à dos d'homme, dans des hottes en osier doublées de glaise, l'eau boueuse qu'on puisait dans les rigoles, et on allait déverser ça dans des énormes tonneaux qui étaient sur des charrettes à bœufs, qui allaient les déverser dans les ruisseaux, dans le rue de Galie essentiellement, qui était en contrebas. Et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré, et ça a duré, et les ouvriers mouraient comme des mouches, parce qu'ils se faisaient piquer par les moustiques, et ils attrapaient les fièvres des marais, et ils mouraient. Et ils mouraient tant que Colbert a été obligé, un petit peu plus tard, au moment effectivement du percement du Grand Canal, donc 3 ou 4 ans après le début de cette histoire, d'affecter la troupe, parce que les soldats étant astreints à la discipline militaire, étaient censés protester moins, et donc ils venaient compléter les ouvriers, ou suppléer en tout cas les défections pour cause de maladie ou de mort des ouvriers, et la main d'œuvre était comme ça encadrée par les officiers des gardes suisses, qui étaient la garde personnelle du roi. Et les soldats mouraient de même, ce qui donnait lieu à des mutineries fréquentes, à des désertions très conséquentes. Et le règlement de Colbert punissait très sévèrement et les mutineries et les désertions. Oui, c'était des Suisses, c'était des mercenaires. Et donc, en effet, c'était les gardes suisses qui, pour la majorité, travaillaient au chantier. Mais on a aussi mis des bons Français de France. La punition pour la désertion, c'était l'ablation du nez et des oreilles.
Des oreilles.
Ce qui est quand même hallucinant. Et le règlement est si précis qu'il stipule que la lame doit être bien affûtée parce qu'on ne doit couper que le bout du nez. Et le chantier de Versailles, c'est aussi ça. Et c'est vrai que ce qui m'a poussée à m'intéresser à ce sujet, c'est une anecdote que vous connaissez sans doute, qui est racontée par les mémorialistes de l'époque, qui est celle de cette femme qui a perdu son fils sur le chantier de Versailles et qui, un jour où Louis XIV fait visiter, ben justement au moment du percement du Grand Canal, fait visiter le chantier. Donc à nouveau, les jardins ont été plantés dans les années 1666-1668. Et puis là, hop, on recommence tout. Parce qu'il s'est mis en tête de creuser le Grand Canal et de faire un immense miroir où le soleil viendrait épouser l'eau. Et symboliquement, ça s'accordait tout à fait avec la vision qu'il avait de sa gloire et ou de son règne. Et donc, il essaye de faire partager avec un insuccès total, sa vision à la reine, qui n'y comprend rien, à Madame de Montespan et à Louise de la Vallière, ses deux maîtresses officielles, on est en 1667-1668. Et tous les courtisans sont autour et déboulent sur lui et tombent sur lui littéralement à coups de poing une femme en guenille qui le cogne et en hurlant « roi tyran, roi putassier ». Et l'anecdote est vraie. Et là, moi, ça m'a, quand la première fois que je l'ai lu, ça m'a frappée parce que imaginez l'équivalent aujourd'hui. Jamais une pauvre femme qui dort dans la rue ne pourrait se précipiter sur le président de la République pour le traiter de tous les noms d'oiseaux. Peut-être. Mais en tout cas, ce ne serait pas possible. Et ben, à l'époque, où pourtant on imagine que la distance entre le roi soleil et l'humble rien en guenille est infranchissable, une femme peut se jeter sur le roi en l'injuriant. Bref, cette femme est évidemment appréhendée, elle est fouettée sur la place du marché à Versailles, et ensuite elle est enfermée à l'asile d'aliénés qui s'appelait les Petites Maisons. Voilà, et où on mettait tout ce qu'on raflait dans la rue qui dérangeait l'ordre public. Ça s'appelait déjà comme ça. Et c'est une anecdote qui m'avait beaucoup frappée déjà à l'époque où j'avais travaillé sur les bâtards de Louis XIV. Et je m'étais dit, un jour, je raconterai l'histoire de cette femme, dont on ne sait rien de plus que ça. Mais là, c'est la chance qu'ont les romanciers, c'est qu'ils peuvent faire des anecdotes, des romans. Et c'est vrai que c'est un point de départ. Et cette femme est la mère de mon personnage principal, Baptiste, Baptiste le jongleur.
Qui d'ailleurs, les deux, la perruquière et Baptiste,
partent tous les deux.
N'avaient aucune chance de se rencontrer
Les romans servent à faire se croiser.
Alors pendant que les ombres travaillent, il y en a certains qui jouent à la glissoire.
Oui.
Ça, alors,
Louis XIV, justement, je vous disais, le premier chantier a commencé par les jardins. Parce que Louis XIV, au moment où meurt sa mère, a 27 ans. Et c'est un athlète. Hein. Il n'a pas encore il a encore peu de ces maladies ou de ces maux très divers qui vont vraiment lui pourrir l'existence et qu'on ne connaît pas du tout quand on pense à Louis XIV, mais que je raconte justement dans le Roi des Ombres. Là, c'est un athlète, il aime les femmes, il aime l'extérieur, il aime chasser, il aime se promener. C'est vraiment, il a un besoin mais fondamental de grand air, et surtout, il a ce besoin de façonner. Et comme les travaux du château, c'est un chantier qui prend plus de temps, il met le premier accent sur les jardins, parce que les jardins, c'est là où, véritablement, on peut faire œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on prend un paysage totalement ingrat. Les courtisans étaient consternés. Quand on lit les mémoires de l'époque, c'est effarant. On décrit Versailles comme un site d'une ingratitude totale. C'était tellement battu par les vents que la colline était couverte de moulins. Alors, bien évidemment, on a enlevé les moulins pour laisser place au chantier. Merci. Et les courtisans riaient sous cape en disant « Les moulins sont partis, mais le vent est resté. » Et donc, il a commencé par les jardins pour voir naître sous ses yeux ce qui était sa vision. Et pour cela, il n'hésitait pas à faire transporter des forêts entières pour les replanter là et à creuser. Je crois qu'on ne peut pas mesurer à quel point ça a été une recréation d'un paysage entier. Nous y sommes.
C'était le chantier le plus énorme de France.
C'était même donné comme le chantier le plus énorme d'Europe. On n'avait jamais vu ça. Et les gens arrivaient de partout en France pour s'engager sur le chantier de Versailles. Et la famille de ce petit Baptiste le jongleur, l'histoire commence, il a 18 ans. Sa mère est loueuse de sangsues à Paris. Ça, c'est un des petits métiers que j'ai rencontrés en cherchant... comment les gens vivaient à cette époque-là. On pêchait les sangsues dans les marais de la Bièvre et dans la Seine avec ses mollets. Et ensuite, on les louait ou on les vendait aux apothicaires qui les utilisaient comme alternative à la saignée pour les patientes qui avaient des problèmes d'encombrement des bronches, de la fièvre, etc.
Et donc, il y en avait deux sortes.
Ah oui, il y avait deux sortes. Il y avait les sangsues noires, qui sont grosses, brillantes, assez molles et peu gourmandes. Grandes, hein. Elles peuvent être grandes comme ça. Et les sangsues brunes, qui sont plus courtes, moches, mais beaucoup plus voraces, donc beaucoup plus efficaces. Mais les belles dames préféraient les grandes sangsues noires parce qu'elles sont plus belles. Et donc, il y avait deux ou trois trucs qu'on trouve là aussi en étudiant les petits métiers, des choses très rigolotes. Genre, quand vous ne pêchez que des sangsues brunes, et que vous avez vraiment besoin d'argent, vous allez à l'abattoir, vous posez la sangsue brune sur le dos, sur le garrot d'une vache, elle gonfle, elle devient très grande, vous la plongez ensuite dans de l'encre, vous la laissez suffisamment longtemps pour qu'elle s'en imbibe, parce qu'il paraît que c'est assez poreux, la sangsue, elle devient noire, vous courez chez l'apothicaire, vous lui vendez votre sangsue, évidemment, vous n'y retournez pas, parce que, un, la sangsue n'a pas faim, deux, elle finit par déteindre. Donc, généralement, ça, c'est assez fâcheux quant à votre réputation de pêcheuse ou de vendeuse de sangsue. Mais ça permettait de survivre. Et donc, Baptiste, ayant entendu par le biais des crieurs publics qui étaient les ANPE de l'époque, hein, qu'on embauchait toutes sortes de petits ouvriers et d'ouvriers spécialisés à Versailles, convainc sa famille, savoir sa mère, son frère qui est apprenti maçon et sa toute petite sœur, de partir en charrette à bras pour Versailles. Et ils s'installent dans les cabanes en planches sur les rebords. Sur les rebords
il y a l'agent de la NPE, le recruteur.
Il y a l'agent de la NPE, le recruteur, qui attache de... Mais c'est exactement, en fait, comme ça se passe aujourd'hui. Hein. Sauf que, comme vous le disiez, la journée de travail... les journées sont de 11 heures.
De 11 heures.
Oui. Donc, elle commence à 5 heures. Et on a qu'une toute petite interruption à l'heure du déjeuner. Mais... par contre, le boire et le manger vous sont fournis parce que Colbert, ayant à cœur de faire en sorte que le rendement soit aussi élevé que possible en matière de transport des boues à dos d'homme, fait apporter par les gardes suisses qui encadrent la main-d'œuvre à midi de l'eau, de la bière, la soupe et du riz. Et donc, on nourrit les ouvriers parce qu'un ouvrier bien nourri abat plus de travail qu'un guenilleux qui crève la faim. C'est assez logique.
Et du vin Clairet.
Et du vin, oui. Clairet, c'est le vin coupé, en fait. Mmh. Et donc, tout ça est extrêmement, extrêmement bien organisé. Il y a une hiérarchie très précise qui va... Tous les salaires à chaque grade sont prévus, l'encadrement aussi, les pénitences aussi. Il y a déjà un embryon de ce qu'on appellerait aujourd'hui les syndicats, ou qui étaient les guildes, oui, par exemple, aux Pays-Bas, et qui essayent d'améliorer les conditions de travail. On a un jour chômé par semaine, qui est réservé à Dieu. Et pour tous... C'est, même si les conditions de vie sont très réellement misérables, c'est au moins la possibilité de manger à sa faim et l'espoir de petit à petit se hausser dans la hiérarchie ouvrière, puis entrepreneuriale, si vraiment on a du talent. Parce que, ce qu'on sait mal, c'est qu'au XVIIe siècle, en fait, l'ascenseur social fonctionnait plutôt bien. Mmh. Et à partir du moment où on était vraiment travailleur et où on avait des idées, on avait une sérieuse chance de sortir de sa condition initiale et de s'élever dans la société. Parce que le roi était très friand des inventions et il était d'un abord simple et aisé pour les petites gens qui venaient avec des idées, et tout ce qui était machine et innovation technique le fascinait. Et donc, il était toujours... Les gens commençaient par en parler à leur contremaître, qui en parlait au grade supérieur, qui en parlait à Colbert. Colbert recevait l'impétrant, et si, effectivement, l'invention lui paraissait très intéressante, le roi venait se faire raconter et montrer. Et le roi était extrêmement calé dans une foule de domaines, du dessin architectural jusqu'à la technique de la clé de voûte, en passant par la dorure à l'œuf, à la glu, à tout. Et il était mais méticulosissime. Et obsédé de détails, et il voulait absolument tout contrôler. Et c'est vrai qu'il a tout contrôlé. De la première bouture à la sculpture des boutons de porte, il fallait que tout lui soit soumis, et il disait oui ou non à tout. Et donc, pour un petit type comme mon Baptiste, qui est totalement analphabète, vraiment comme 98% de la population à l'époque. Hein. Il n'a appris ni à lire, ni à compter, mais il se forme sur le tas. Et tout le monde peut dessiner avec une pointe à fusain et une ardoise, hein, une feuille d'ardoise. On trace des plans. Et il a des idées. D'abord des idées de bêtement de drainage, et puis ensuite des idées de colmatage des réservoirs, et puis ensuite des idées pour l'adduction des eaux, parce que le Louis XIV a une réelle fascination pour les fontaines qui exprime et symboliquement et concrètement, par la magie, comme ça, iridescence, c'est très très beau, hein, une fontaine. C'est sa puissance qui gicle jusqu'au ciel. Et en plus, comme symbole viril, c'est assez compréhensible par vraiment à peu près tout le monde. Et puis, ça en jette au sens littéral du terme. Et comme très vite, dans son esprit, le propos de Versailles a été d'éblouir l'univers et de montrer à quel point le créateur de Versailles, le maître de Versailles, est le plus grand roi du monde. C'est une entreprise de publicité à ciel ouvert, Versailles. Et rien n'est plus spectaculaire, à l'époque en tout cas, que les fontaines qui semblent... Imaginez pour des gens qui ne savent absolument pas d'où vient cette eau, comment on a amené cette eau... On n'a pas l'eau courante, bien évidemment. Hein. Des fontaines, le jet du dragon, la fontaine du dragon à Versailles, le jet mesure 27 mètres de haut, avec un dragon en plus, un énorme dragon couvert de feuilles d'or qui crache à 27 mètres de haut. Imaginez le badaud, que ce soit la mercière du coin ou bien l'ambassadeur de la sublime porte, tout le monde est ébloui. Et les fontainiers, à l'époque, sont l'aristocratie du chantier. C'est un des métiers les plus techniques et c'est un des métiers les plus magiques. Et c'est aussi un des métiers les plus rudes parce qu'à 70%, il se passe sous terre. À Versailles, les fontainiers, enfin, François Francine, qui est l'intendant des fontaines de Versailles, Denis Joly et Claude Denis, qui étaient les maîtres des fontaines à Versailles, ont conçu, creusé, puis posé 30 kilomètres de canalisation pour les bosquets. 30 kilomètres sous terre. Et aujourd'hui, ça c'est absolument bouleversant quand on aime l'histoire, les tuyaux à 80% sont intacts. Donc quand on descend, les galeries sont les mêmes. La galerie où je fais tomber mon personnage, j'y suis descendue avec les petites, c'est comme des échelles de une petite rampe d'incendie. On descend à entre 3 et 5 mètres sous terre. Ce sont des boyaux qui parfois sont larges comme la table, parfois sont à peine larges comme moi, donc pas très larges. Et on marche vraiment à croupetons. Et là, vous avez des tuyaux gros, qui sont des tuyaux de fonte qui datent de 1667, 1668, 1670, avant 1670, avec encore les soudures. Alors, au début, il y avait des soudures en cuir. Ensuite, on a fait des soudures à la louche, en fonte. Et on voit la marque, le sceau de chaque fontainier. Et ça, c'est extrêmement émouvant, parce qu'il reste très peu de choses à Versailles, du premier Versailles. Et ça, c'est extrêmement humain. Chacun de ces hommes... Qui a travaillé, passé sa vie comme ça dans ces galeries, a laissé son sceau à l'endroit où il travaillait. Et c'est très émouvant. Enfin, moi, j'ai trouvé ça très émouvant. Et donc, ensuite, vous suivez ces boyaux, vous arrivez à ce qu'on appelle... alors, il y a une fontaine qui est très célèbre à Versailles, qui a connu plusieurs refontes, qui s'appelle le bassin de Latone. la tonne, c'est l'histoire de enfin, il y a des, ce sont des paysans qui sont changés en grenouilles. Voilà. Et donc, il y en a qui sont à moitié grenouilles, puis d'autres qui sont déjà tout à fait grenouilles. Et quand on arrive dessous, et les jets d'eau sont assez complexes. Quand on arrive, quand on suit les boyaux, on arrive dessous ce qui s'appelle le gâteau de la tonne, qui est une espèce de grosse pilastre, en fait, en pierre, de laquelle partent les petits tuyaux, même chose avec les soudures, qui vont aux ajoutages, c'est-à-dire aux bouches d'eau, dont le modèle, inchangé depuis les années 1670, détermine la forme du jet d'eau. Alors, si vous allez avoir un truc en pluie, en ananas, en palmier, tout droit, en bruine, etc. Et ça, c'est absolument inchangé. Et donc, les gens qui concevaient, qui posaient et qui entretenaient ça, étaient, au XVIIe siècle comme aujourd'hui, vraiment des spécialistes qui avaient par contre une vie assez courte parce qu'ils travaillaient le plomb. Et comme on le sait, le plomb est quand même très toxique et il ne faisait pas très long feu. Et Montbaptiste accède à cette aristocratie et pour s'élever plus vite, comme même quand on est on fait partie de cette aristocratie ouvrière, les conditions de vie restent précaires. Et on ne s'enrichit pas si on ne devient pas maître. Et on ne devient maître qu'au bout de 7 ans, ce qui pour un ambitieux est long. Et l'autre moyen de s'enrichir sur le chantier de Versailles, c'est le trafic. Et ce qui m'a aussi beaucoup étonnée quand j'ai fait mes recherches, c'est que bien que tout soit très encadré par Colbert, par une multitude de règlements et d'agents envoyés partout dans les provinces, depuis l'extraction des marbres, la coupe des bois, jusqu'au transport par gabarre et au stockage, tout est vraiment encadré. Néanmoins, tout le monde trafique du plus bas au plus haut de l'échelle. On trafique sur tout. On trafique sur les pierres, on trafique sur les tuiles, on trafique sur les métaux précieux et on trafique sur le plomb. Alors, on peut se dire que le plomb, c'est curieux. C'est un matériau très précieux, le plomb à l'époque, ça vaut très cher. Moins cher que l'or, mais c'est vraiment très précieux et très onéreux. Et pour trafiquer, on ne peut pas trafiquer les plaques, parce que c'est trop lourd. Mais ce qu'avait imaginé Denis Joly, qui alors pourtant lui était maître fontainier, il n'aurait pas dû avoir besoin de ça, c'est de livrer des tuyaux un tout petit peu plus minces. Ils sont censés avoir le même poids, donc on les paye le même montant, mais ils sont un tout petit peu plus minces, donc ils consomment moins de plomb, et on empoche la différence. Et les profits sont considérables. Et puis le trafic, c'est un trafic qui a existé. Hein. Il a été dénoncé, Denis Joly s'en est sorti, mais Montbaptiste s'en sort moins bien.
S'en sort moins bien. On parle de monsieur ?
Ah, on peut parler
parce que
de monsieur.
Je pense que monsieur occupe une grande place aussi dans cette saga. Et je crois que vous l'aimez bien, monsieur.
Oui, j'aime beaucoup monsieur frère du roi, qu'on approche par le biais du personnage féminin, qui, alors que Baptiste est à l'extérieur du château pour vous parler justement des jardins et de la fièvre bâtisseuse de Louis XIV, le personnage féminin est à l'intérieur et il essaye de raconter ce que sont les grands dans leur humanité la plus concrète, vraiment la chair
qui,
et les os.
Qui est absolument pas apprécié par son frère.
Non, non, pas du tout.
Qu'il n'aime pas du tout.
Pas du tout.
Et que je pense qu'il sait plus intelligent que lui.
Oui, oui. Je pense que une part de la personnalité de Louis XIV s'explique par la jalousie que sans doute il a nourrie dans sa petite enfance pour son frère cadet, qui était plus doué, plus joli, plus gai. Louis XIV n'était pas un enfant brillant hein, du tout. Si on lit les mémoires de son valet de chambre, on voit que ça n'était pas un enfant jovial, pas très délié. Il peinait un peu à apprendre. et la fantastique mémoire qu'il a développée par la suite ne s'appliquaient pas tellement aux études. Et par contre, le plus jeune, Philippe, était doué pour tout, mais vraiment tout. Et il avait une formidable mémoire, il était drôle, il chantait très très bien, il composait des vers. Et puis il avait du charme, le charme ça ne s'explique pas. Ce que visiblement Louis XIV n'avait pas, et Louis XIV était jaloux. Et alors, quelle est la part de la nature et quelle est la part du penchant qui a été à dessein cultivé dans l'homosexualité de Philippe d'Orléans, de monsieur, frère du roi? C'est impossible de le dire. Louis XIII était homosexuel. Bon, il y a certainement, je dirais, une très forte part, à mon avis, génétique hein, là-dedans. Maintenant, quoi qu'il en soit, monsieur était ce qu'on appelait un inverti, c'est-à-dire un inverti dans le langage poli, dans le langage moins poli, on appelait ça un bardache, c'est-à-dire un homosexuel passif. Et sa passion dans l'existence, c'était de se déguiser en femme. Et Madame de Sévigné disait qu'il courait les bals de l'opéra pour se faire donner dans le cul par ses amants, ce qui est assez explicite quand même. Et Louis XIV a toujours, c'est très étrange hein, leur relation. Je pense que c'est une espèce de fascination haineuse qu'il a envers son frère.
Il le fait espionner.
Il est obsédé par l'idée que son frère puisse comploter contre lui. Alors, oui, Louis XIV a été bien évidemment très marqué et tout à fait traumatisé par la fronde. Gaston d'Orléans, son oncle, hein, le frère de son père, s'est révolté contre l'autorité royale et la moitié des princes du sang, voire les deux tiers, ont pris les armes contre lui quand il était enfant et adolescent. Il a vu sa cousine faire tirer au canon et le boulet tomber devant les naseaux de son cheval. Et il en a gardé une rancœur qu'il a étouffée parce que politique oblige et que Mazarin lui a appris à dissimuler. Vraiment à ravaler au plus profond de lui ses sentiments. Mais Mazarin lui a aussi dit « Sire, abaissez les grands ou ils vous abaisseront. » Et le plus grand d'entre les grands, c'est son propre frère. Et donc il a toujours essayé de garder sous le boisseau Philippe d'Orléans. De surcroît, Philippe d'Orléans, outre ses talents de société, s'est révélé un brillantissime capitaine de guerre, ce qui a surpris tout le monde, parce qu'il avait des mœurs vraiment dissolues, et pas franchement très viriles, mais à la guerre, il était nettement plus doué, plus courageux, plus allant que le roi lui-même. Alors ça, le roi n'a pas supporté du tout. À partir du moment où son frère est arrivé avec des brassées d'étendards ennemis, il n'a plus jamais eu de commandement aux armées. Et donc, tout ce qui est resté à Philippe d'Orléans, c'était quoi, au fond, pour occuper ses dons naturels? L'étiquette. Alors oui, le roi l'a chargé de l'étiquette. Et puis, la dissipation. Il a eu un grand amour dans sa vie, beaucoup de mignons, mais un grand amour qui est le chevalier de Lorraine, pour qui il se serait plié en origami, et il l'a fait, pour qu'il dépensait des fortunes, et que le roi utilisait comme carotte pour obtenir de lui toute soumission. Et l'histoire...
C'est celui-là qui l'avait chargé de l'espionner.
Absolument, absolument. Et toute l'histoire de Philippe d'Orléans est celle d'un frère cadet qui aime sincèrement son aîné, qui voudrait beaucoup l'admirer, mais qui le voit quand même très bien tel qu'il est, et qui se rend compte dans le courant de l'histoire que je raconte que non seulement il n'est pas aimé de son frère, mais qu'il en est même détesté. Et j'ai choisi l'arc historique 1666-1674 pour cette raison précise. 1666, c'est la mort d'Anne d'Autriche, qui est le dernier contre-pouvoir familial de Louis XIV. À partir de ce moment-là, il estime qu'il n'a plus de compte à rendre. Et il se donne les coudées franches pour devenir qui il veut l'être. Et ça va passer par exactement ce à quoi il a promis de renoncer, les femmes, la guerre, Versailles. Donc, on commence en 1666, et 1674, c'est la mise à mort du chevalier de Rohan, qui est un personnage flamboyant, et le frère de cœur de Louis XIV. Louis de Rohan, qui a grandi avec les deux princes, parce que sa mère, la princesse de Guéméné, était la meilleure amie de la reine, donc il a été élevé avec Louis et Philippe, et il était grand veneur du roi, et c'était vraiment, pour autant que Louis XIV n'ait jamais eu un ami, en tout cas dans la haute noblesse, c'était son meilleur ami, c'était son franc compagnon de débauche. Ils ont fait les coups les plus pendables ensemble. Et il aimait en Rohan ce que Philippe n'était pas. Et il l'aimait d'autant plus qu'il n'y avait aucun risque, puisque Rohan n'était pas son frère. Et Rohan a fini par se révolter contre Louis XIV parce qu'il n'acceptait pas, comme une part de la haute noblesse de l'époque, la façon dont le règne, pendant ces 8 premières années, part d'un pouvoir qui est le pouvoir du roi, et s'oriente vers un absolutisme de plus en plus affirmé, à tendance, du moins ainsi la noblesse le percevait-elle, tyrannique. Et Louis de Rohan prend la tête d'un complot républicain qui vise à détrôner le roi et à instaurer une république en France inspirée du modèle de la république flamande. Louis XIV, le complot est dénoncé, Louis XIV pourrait gracier Rohan, il aurait même pu arrêter le complot en amont parce qu'il en a très probablement été informé assez tôt. Simplement, ça l'a arrangé. Louis XIV est d'un machiavélisme consommé, remarquable au sens littéral du terme. Donc, il a laissé le complot arriver jusqu'au moment où c'est devenu totalement irrécupérable. Et il a fait exécuter Rohan.
Qui a attendu jusqu'à la fin.
Qui pensait être gracié jusqu'au moment où effectivement, on l'a décapité. Et il était inconcevable pour toute la cour qu'un seigneur comme Rohan soit exécuté. Mais en le mettant à mort, c'est symboliquement son frère qu'il met à mort, c'est sa jeunesse et c'est toute la noblesse frondeuse. Et il y a un avant et un après cet événement, qui est un événement de l'histoire de France mal connu, très peu connu, je crois, mais qui, en tout cas dans l'histoire du règne de Louis XIV, qui est très long, marque vraiment une pierre blanche et la face du règne change à partir de là. Et c'est pour ça que j'ai choisi cet arc. Et j'ai placé donc un personnage à l'extérieur et un personnage à l'intérieur, qui est une petite perruquière, enfin, qui est fille de baigneur. J'en parle ?
Étuvier. Oui, il est étuvier. Dites, qu'est-ce que c'est qu'un étuvier à Paris ?
Au XVIIe siècle, on a peur de l'eau. Parce que depuis les grandes pestes, les grandes épidémies de peste, l'eau est réputée comme la responsable. On pensait que les puits empoisonnés répandaient la peste et que les ports, étant comme des narines, absorbaient les miasmes de l'air, mais que également par les ports, tous les miasmes contenus dans l'eau accédaient directement aux organes vitaux. Et donc, on pensait qu'une bonne couche de crasse, on disait une robuste couche de crasse, protégeait mieux que tout. Et donc, on ne se lavait pas, on avait peur de l'eau.
Monsieur.
Ah oui, monsieur était un chat, une loutre. Et il y avait, par contre, donc on n'avait évidemment pas d'eau chez soi, pas de baignoire ou très peu. Par contre, il y avait dans Paris quelques établissements de bains qu'on appelait des étuves et qui permettait aux gens riches, les gens de la noblesse ou les gens de la bourgeoisie montante, de venir à la fois se délasser, parce qu'il y a un plaisir érotique, en tout cas on le percevait comme tel, du bain, et puis prendre les bains médicinaux prescrits par les médecins. Et alors là, on a toute une gamme de bains abracadabrants, dont on connaît la composition très clairement quand on cherche. Alors ça, je le raconte, c'est très drôle. Et le plus célèbre établissement de bains était tenu par François Quentin dit Lavienne, dont le frère, Jean Quentin, était barbier perruquier du roi. Et Lavienne donc, tenait cet établissement de bains où Louis XIV venait prendre les eaux et aussi se délasser en compagnie aimable, surtout quand ses maîtresses étaient enceintes, et se fournir en ce qu'on appelait les confortatifs, qui étaient l'équivalent de notre Viagra, hein, c'est-à-dire un bon stimulant cardiaque, à base de mouche cantaride, corne de cerf pilée, perles broyées, et autres ingrédients improbables, genre sang de jeune homme roux, enfin, c'est bon, bref. Et donc, il mangeait ces choses, enfin, ces petites pilules, ou ces petites gélules, déjà, à l'époque, qui le rendaient mieux à même d'honorer ces dames, sachant que le roi se devait d'être surhumain en tout. C'est-à-dire qu'il devait être meilleur dans l'alcôve que n'importe qui, plus grand baffreur à table que n'importe qui, chasser plus vaillamment, jouer à la paume sans jamais se fatiguer, etc., etc., etc. Il fallait qu'en tout, le roi dépasse tout le monde, et à la danse notamment. Ça c'est aussi un aspect qui m'a beaucoup frappée. Mais ça, j'avais déjà travaillé là-dessus parce que j'avais écrit sur Lully et Louis XIV. La danse n'est pas un divertissement pour l'époque. C'est un art. C'est vraiment un art et c'est aussi un sport. Et le roi était un remarquable danseur. Il était jusqu'aux Amants Magnifiques, donc il a une trentaine d'années, au moment de 1670, oui, il a 32 ans, il était l'équivalent d'un danseur étoile, hein, je pense. Oui, vraiment, je pense. Il dansait au milieu de danseurs professionnels, et le jour, et parfois, ça lui prenait 3 heures, 4 heures de répétition par jour pour pouvoir être le premier pour ses ballets. Ce qui l'épuisait totalement. Et donc, quand il était particulièrement épuisé, il allait au Bain-la-Vienne, il se faisait donner des confortatifs, il se faisait masser et il se faisait oindre. Et Nine, la fille que j'ai donnée au baigneur Lavienne, avait cette fonction-là. Et c'est une petite fille qui pense avoir tué sa mère. 80% des femmes de l'époque mouraient en couche, hein, avant le cinquième enfant, sachant qu'elles avaient, pour la plupart, on pouvait marier les filles à partir de 13-14 ans, dès qu'elles étaient nubiles, et donc les couches étaient répétées. Souvent d'ailleurs encore plus nombreuses, encore plus rapprochées dans la bonne société, parce que les femmes n'allaitaient pas, les enfants étaient mis en nourrice. Et donc, elles étaient à nouveau enceintes extrêmement, extrêmement rapidement. Et donc, elles mouraient vraiment beaucoup. Et la petite Nine, qui a 12 ans au début de cette histoire, veut racheter la mort de sa mère en sauvant des vies. Et elle veut devenir une savante. Elle veut sauver des gens. Elle veut être médecin et surtout aromathérapeute, parce que l'aromathérapie, voilà, qui date de l'Antiquité, hein, oui, prend son essor à cette époque-là. Et comme je vous le disais tout à l'heure à propos de l'eau, on considérait que la peau, enfin les pores de la peau sont des minuscules narines, et que les ingrédients ou les odeurs véhiculent les principes actifs des ingrédients dont les aromates ou les diverses préparations sont composées. et que donc, par la peau ou par les narines, la peau faisant office de narine d'ailleurs, les organes bénéficient des principes thérapeutiques qui sont contenus dans le musc, la coriandre, enfin, tout et n'importe quoi, pour nous. Mais à l'époque, c'était extrêmement sérieux, très étudié, et Nine expérimente tout ça, comme on le faisait d'ailleurs dans les étuves, puisque les bains, encore une fois, sont à l'époque à vocation avant tout thérapeutique.
Mais et le père la met à l'abri.
Pardon ?
Le père veut la mettre à l'abri.
Le père veut la mettre à l'abri parce qu'une fille nubile dans un milieu d'hommes nus, c'est un peu dangereux tout de même. Et pour la soustraire aux convoitises de ces messieurs, il la place chez son frère, Jean Quentin, qui est perruquier et qui est le fils du vieux Binet. Binet, vous savez l'expression « avoir une drôle de binette ». Ça vient de là, ça vient du perruquier Binet, qui était déjà à l'époque, dans les années 1770, un très vieux monsieur, qui avait son atelier rue des Petits Champs à Paris. Et ses créations, c'était vraiment un artiste, ses créations étaient tellement extravagantes que quand une comtesse ou un marquis arrivait à la cour avec un échafaudage ahurissant, on disait « Ah, vous avez vu, monsieur Intel, il a une drôle de binette ». Et ça, l'expression est restée. Et donc l'atelier de perruque est à Paris. Nine fait ses classes de perruquerie. La perruquerie et la barberie étant cousines à l'époque. Et le barbier étant un chirurgien sans diplôme. C'est-à-dire que quand on était barbier, non seulement on rasait les gens, mais on soignait tout ce qui pouvait se soigner au bistouri. Les furoncles, les anthrax, les petites plaies, débrider les plaies, etc., etc. Et donc, elle s'initiait à tout ça avec l'ambition de devenir chirurgien. Ce qui est absolument impossible à l'époque, parce que les filles, non seulement n'ont pas le droit au collège, mais bien évidemment, elles n'ont pas le droit aux études supérieures. Et la faculté de médecine leur est absolument fermée. Et donc, elle va, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, elle va trouver des ruses pour parvenir à ses fins, sachant qu'elle rêve d'avoir une vie d'homme dans un siècle qui est fermé complètement pour les femmes étant à cette époque entièrement soumises de la naissance jusqu'à la mort, au père d'abord, puis au mari. Elles sont considérées comme des incapables, comme des mineurs. Et l'homme a tout pouvoir sur elles, physiquement, juridiquement, socialement, patrimonialement. Elles sont considérées comme des non-êtres. Et Nine essaye d'échapper à...
D'échapper à cela. Je voulais encore que vous disiez un peu, que vous parliez. Il n'est pas bon d'être malade à cette époque-là.
Ben, c'est-à-dire que vous
Parce
avez
que
tous... Vous avez...
Entre les médecins incompétents,
ah oui.
C'est effrayant.
Effrayant. Ben, c'est on a effrayant. Tous lu Molière. Hein. La médecine de l'époque se limitait à la saignée. Alors, ce que j'ai appris aussi en faisant mes recherches, c'est qu'on ne saignait pas seulement au bras. On saignait en fonction du lieu du mal. On saignait aux veines qui étaient proches de... Donc, si vous aviez la migraine, on vous saignait aux veines du front. Si vous aviez mal aux yeux, on vous saignait aux veines qui sont là. Donc, on saignait d'une quantité d'endroits tout à fait terrifiant, je trouve. Et en fonction de la durée de la saignée, le malade, tout ça était très, très, très calibré. Et on posait les sangsues aussi hein, aux différents endroits. Et donc, un, la saignée. Deux, le clistère, donc le lavement. Hein, et trois, la purge. Donc, le remède le plus violent étant l'émétique, qui est à base d'antimoine, qui est un vomitif très, 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 très puissant, qui vous ravage les boyaux, et qui est censé extirper les maux, parce que à l'époque, on parlait en termes d'humeur, au pluriel. C'est-à-dire que le corps était plein d'humeurs qui se promenaient. la circulation sanguine non seulement étudiée, mais même publiée par Harvey en Angleterre déjà depuis plus de 30 ans. Mais la faculté de Paris, la faculté de Montpellier était un peu plus ouverte, mais la faculté de Paris ne voulait absolument pas entendre parler de la circulation sanguine. On pensait que tout était une question des humeurs qui se baladaient. Voilà, les humeurs se baladaient. Alors, de temps en temps, elles étaient stockées dans un endroit, et donc elles vous donnaient des oppressions, ou bien des constipations, ou bien bref. Et donc, il fallait à toute force faire sortir les humeurs. Et donc, on les faisait sortir Alors, il y avait la médecine expectorante, qui effectivement faisait sortir. Et bien évidemment, alors on pouvait vous saigner jusqu'à 30 fois en 24 heures. On imagine évidemment ce que sur un organisme déjà débile, ça pouvait produire comme effet. Et l'autre grande méthode, c'était le jeûne. Et quand Nine se déguise en garçon pour pouvoir suivre les cours à la faculté, elle est quand même assez estomaquée de voir que les médecins, avec une totale bonne conscience, recommandent à des gens, des très pauvres gens qui déjà ne mangent pas du tout à leur faim, de jeûner pour mieux se porter. Et effectivement, non seulement on ne guérissait pas, mais les médecins tuaient plus qu'à leur tour. Et ça, c'était valable pour cette époque-là, mais à la fin du règne de Louis XIV, c'est exactement pareil. Louis XV n'a survécu que parce que sa nourrice l'a volé au médecin, s'est enfermée à clé dans ses appartements, et il y avait une épidémie de rougeole. Elle a laissé sortir la rougeole. Les médecins avaient saigné son père, sa mère, son frère. Ils étaient tous morts, parce que En saignant, ils avaient affaibli l'organisme, la fièvre n'avait pas pu monter, les boutons n'avaient pas pu sortir, tous morts. Alors que quand la rougeole a suivi son cours normal, bien l'enfant a survécu. Et en plus, il y a une espèce de logique atroce là-dedans, qui est que pour justifier leur action, il fallait que les médecins soient jusqu'au boutiste. Parce que si on en tuait, il fallait les tuer tous, parce que s'il y en avait un qui survivait, ça voulait simplement dire qu'on était responsable de la mort des autres. Et les femmes en étant les premières victimes, parce que bien évidemment...
Regardez la reine-mère, comme ils ont charcuté la reine-mère avec
le cancer de la reine-mère,
son cancer du sein,
c'est effrayant. On découpait, le cancer était considéré comme un noyau, voilà. Un noyau qu'il fallait atteindre, et donc on découpait le fruit par tranches fines, tous les jours, jusqu'au moment où on atteignait le noyau, qui était la tumeur, et on cautérisait les plaies à la chaux ou au sel gris. À vif, évidemment. Et la pauvre femme serait certainement morte de sa tumeur, mais on aurait pu lui épargner les tortures atroces. Et les accouchements, c'était la même chose. C'était la même chose.
La palatine, 6 heures.
Oui, mais ça, la palatine était une robuste personne. Donc, elle s'en sortait plutôt bien. Mais évidemment, on ignorait la césarienne. Et la consigne étant toujours de sauver l'enfant plutôt que la mère, on ouvrait les mères de haut en bas, on sortait l'enfant, la mère mourait. Et puis voilà, les hommes se remariaient. Où était le problème? De toute manière, les femmes étaient considérées comme des ventres. Et vraiment, on, beaucoup de familles les vendaient, ou les alliances se faisaient en vue de la procréation et de la descendance. Mais la femme en elle-même était de peu de prix. Et ce qui importait, c'était l'enfant, surtout le fils. Et donc, on changeait la mère jusqu'à temps que le fils soit produit. Ce qui est malheureusement ce qui va arriver à Nine.
On parle juste encore, parce que le temps passe, c'est fou, de l'organisation de Versailles. Il y a l'intendant, Alexandre Bontemps, donc le valet, de Louis XIV, mais il est surtout l'intendant de Versailles.
Oui, il est gouverneur et intendant de Versailles.
Et donc, comment ça fonctionne? Comment ça se passe? On attribue des appartements. Comment ça fonctionne?
Le Versailles de cette époque-là, c'est-à-dire le premier Versailles, parce que vous avez le petit pavillon dont je vous ai parlé, avec les, enfin, le petit château de Louis XIII, qui correspond à ce qui est autour de la cour de marbre. Et imaginez, au bout, quatre pavillons. Ensuite, quand Louis XIV, à partir de 1568, a commencé à y venir vraiment, vraiment régulièrement, et qu'il a voulu y venir en compagnie, c'était trop petit. Et donc, il a fait un appel d'offres, en fait. Et le projet qui a remporté le marché, c'était le projet de Levaux, qui consistait à faire une enveloppe autour du château. Et donc, on a laissé le petit château, qui est maintenant notre cour de marbre, et on a rajouté trois tranches de gâteau à l'arrière. Et il y avait une grande... À cette époque-là, la galerie des glaces n'existait pas. À la place de la galerie des glaces, vous l'enlevez, il y avait une terrasse à l'italienne avec une balustrade. Et c'était creux. Ça n'est qu'à partir de 1682, quand la cour s'installe définitivement à Versailles, qu'il y a un besoin de circulation entre l'aile nord, où sont les appartements du roi, l'aile sud, où sont les appartements de la reine. Franchement, ce n'est pas pratique. Et donc, on fait la galerie des glaces qui donne un grand axe de circulation. Dans la période dont je parle, se construit justement l'aile de Levaux. Donc c'est un chantier permanent. Il faut que vous imaginez Versailles comme un entrepôt de matériaux à ciel ouvert, avec des grues partout, des charrettes à bœufs, à cheval, des plateformes de scierie, un foutoir incommensurable, un bruit absolument mais étourdissant, tout le temps, sachant qu'il y a des équipes de jour et des équipes de nuit. Alors, quand le roi était là, à demeure, ce qui n'était pas le cas tout le temps, hein, parce qu'il séjournait de façon fixe à Versailles à partir de 1682 avec la cour. Mais enfin, il faisait des séjours fréquents, mais il résidait surtout à Saint-Germain et un peu au Louvre. Et donc dans cette espèce de gigantesque capharnaüm, Bontemps, intendant du château, régissait le fonctionnement des lieux et des personnes qui étaient à demeure. Donc le roi venait avec entre 800 et 2000 personnes, et vous doubliez, voire tripliez ce nombre avec les serviteurs. Ce qu'on appelait les serviteurs, c'était aussi bien les serviteurs de haut rang, un valet de chambre à l'époque, Bontemps était valet de chambre du roi, c'est un des tout premiers personnages du royaume. Être dame d'honneur, c'est un titre infiniment enviable. Ce qu'on appellerait, nous, des serviteurs, c'était plutôt des charges auprès de la famille royale. Et tout cela étant en cascade jusqu'au petit métier, frotteur, le cireur, les gens qui remontaient les horloges, les gens qui approvisionnaient les cheminées, et puis toute la maison bouche qui était responsable des repas du roi. Tout ça était coiffé par Bontemps. Et mon fontinier, Baptiste le Jongleur, s'occupait de fournir en eau ces personnes, sachant que quand il y avait entre 2500 et 3500 personnes à demeure à Versailles, il y avait deux fontaines d'eau potable. Deux fontaines dans le château, réservées aux maîtres, bien évidemment. Tout le petit peuple, des ouvriers à l'extérieur et des serviteurs de moindre rang, les gens des cuisines, les gens des communs, etc., etc., devant s'approvisionner aux fontaines publiques, une fontaine publique sur la place du marché à Versailles. Franchement, je ne sais pas comment ils arrivaient à faire. Et la table du roi était organisée également par Bontemps, l'objectif de Louis XIV étant de faire en sorte que les courtisans n'aient jamais besoin de quitter le château. Donc les tables étaient servies, les tables de la maison royale étaient servies à heure fixe. Ceux qui servaient à ces tables... ceux qui servaient à ces tables, les domestiques de premier rang dont je vous parlais, déjeunaient ou dînaient avant. Alors, ce que nous appelons notre déjeuner est ce qui était leur dîner. ce que nous appelons notre dîner, ce qui était leur souper. Donc, était servi avant, de manière à ce qu'eux puissent être présents pour faire le service des tables du roi. Et ces tables étaient prévues pour nourrir entre 3 et 10 fois plus de monde que ceux qui venaient effectivement y prendre place, sachant qu'on était marqué, Bontemps dressait les listes des gens qui avaient le droit de venir prendre place aux tables de la famille royale et aux tables des grands officiers. Et vous connaissez cette expression « pique-assiette » ou le cherche-midi, la rue du cherche-midi à Paris. Ça vient de là. Les gens qui n'étaient pas inscrits, c'est comme au Club Med, hein, les gens qui n'étaient pas inscrits venaient piquer assiette, c'est-à-dire qu'ils essayaient de se faufiler pour pouvoir prendre un repas en douce aux tables auxquelles ils n'avaient pas droit. Et chercher midi, c'était essayer de trouver un endroit où s'asseoir et pour avoir quelque chose à manger. Sachant que si on ratait les services, donc qui étaient à heure fixe, mais déjà décalés par rapport à celle du roi, les restes de ces différentes tables étaient revendus en cascade par les gentilshommes servants qui apportaient les plats, etc., avaient droit au reste. Ils les revendaient à leurs domestiques, qui les revendaient aux domestiques de moins de rang, qui le revendaient aux petits valets qui grouillaient un peu partout dans Versailles, qui eux-mêmes le revendaient
Dans
les baraques qui entouraient, qui jouxtaient les ailes en travaux. Donc il faut imaginer Versailles, c'était un énorme chantier que je vous décrivais, avec en plus une espèce de frange de baraque en planche avec un auvent où on réchauffait les restes des tables et où justement les ouvriers, les gens qui n'avaient pas réussi à piquer assiette ou qui n'avaient pas trouvé midi venaient et soit mangeaient sur le pouce, soit rapportaient dans les appartements où il y avait à chaque étage des réchauffoirs que les valets alimentaient avec des braises et qui était l'une des sources des très fréquents incendies dans Versailles parce que tout était en bois, les boiseries et ces réchauffoirs, outre les odeurs pestilentielles, ça mettait très souvent le feu aux boiseries. Donc Versailles, c'était ça. C'était pas du tout ce que vous voyez aujourd'hui. C'était une espèce de ruche avec un brouhaha incommensurable, des odeurs méphitiques parce que l'hygiène était inexistante. On faisait ses besoins dans les escaliers et la Palatine, il faut lire la Palatine. Là, je ne vous le raconterai pas parce que franchement, c'est bon. Disons que c'est une femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et vraiment, on marchait sur tout, partout. Vous savez ce que c'est qu'un bourdalou ? Oui ? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les sermons du père Bourdalou étaient très longs. Il avait beaucoup de talent, mais il était très long. Et quand ces dames étaient vraiment très pressées et dans l'obligation de quitter la chapelle, ce qui ne pouvait se faire, leur suivante glissait sous leur jupe, ce qui a la forme d'une saucière et qui s'appelle un Bourdalou. Voilà.
Qu'on vidait contre les colonnes de
la chapelle, exactement.
Eh bien, voilà. Alors, je vais vous dire, il faut voir à peu près ce qui s'y mangeait. Hein. Les entrées, les hors-d'œuvre, les viandes, les volailles de broche, les petits entrées comptent généralement 6 poulets en fricassé, plus 2 perdrix en hachis, les hors-d'œuvre, 3 perdrix au jus, plus 6 tortues à la braise, 2 dindons grillés, 3 poulets gras aux truffes, les grandes entrées, 1 quartier de veau, plus 12 pigeons en tourte. Donc, vous voyez, il y avait de quoi à revendre des restes.
Alors, non, il n'y avait pas de congélateur, mais il y avait des glacières. On peut les voir encore dans le parc. En hiver, on enterrait et on recouvrait de paille des glacières dans lesquelles la glace était conservée jusqu'à l'été, parce que le roi adorait les sorbets. Les hivers étaient beaucoup, je crois, plus froids.
Dans les grottes, dans les caves.
Oui. On creusait. Et je crois que les hivers étaient beaucoup plus froids parce que quand on regarde les mémorialistes, on voit que la Seine était très souvent prise par les glaces et de manière très épaisse, sur une grande épaisseur. Il y avait des blocs de glace qui venaient même éventrer les bateaux. Et nous, ça, on, moi, je n'ai jamais connu ça.
On n'aura pas le temps de parler des cours des miracles, mais enfin, ça vous lirez. Il y a une cour des miracles, la Jussienne, qui est incroyable, mais ça, vous le lirez dans le livre. Et je vais vous laisser conclure en allant à l'essentiel de ce que vous vouliez véritablement nous apprendre.
Ce que j'ai essayé de faire en écrivant ce roman, c'est de donner du XVIIe siècle une image peut-être un petit peu plus véridique, qui sorte de l'image d'Épinal, justement, des ors, des marbres, de la poudre, des paillettes, de l'admirable musique baroque que personnellement j'aime énormément. Mais sous la poudre et les phares, il y a un roi qui est pris de vertige constamment. Il y a monsieur qui souffre de la jalousie de son aîné. Il y a des gens qui portent des perruques avec la gale dessous. Il y a tout un petit peuple qui est dans la dévotion par rapport à son roi, mais aussi dans la rage, dans un sentiment de désespoir et d'humiliation permanente, et j'ai essayé de restituer ce qu'était la chair, le sang, les fièvres, les désirs et aussi les désespoirs de cette époque-là, pour qu'on comprenne que c'est le grand siècle, mais d'abord ça n'a pas été le grand siècle pour tout le monde, et ensuite on dit le grand siècle parce qu'on voit uniquement ce qui s'est passé sur ce gigantesque théâtre à ciel ouvert qu'était Versailles, qu'était la cour. Mais il y a des gens sous les tréteaux, il y a des gens dans les coulisses, et le roi des ombres, c'est l'histoire de ces ombres-là. Ceux dont on n'a jamais parlé, ceux qu'on ne regardait pas, mais ceux sans lesquels ce siècle ne serait pas non plus ce qu'il est. Voilà.
Eve Castro, je vous remercie infiniment.
Je vous en prie.
Vous verrez, c'est un livre magnifique.